Une semaine d'actualité. Pierre-Édouard Deldic.
Bonjour, c'est en compagnie d'un journaliste que vous connaissez, puisqu'il travaille à RFI depuis quelques années maintenant, que nous allons passer en revue l'essentiel de l'actualité de ces 7 derniers jours. Ce journaliste s'appelle Olivier Roger, mais c'est l'écrivain qui est avec nous, celui qui nous propose un nouveau et beau roman dont l'action se déroule durant la chute finale de l'URSS. Son titre, Les Hommes Incertains, son éditeur, Le Passage. Notre voyage dans l'actualité va nous conduire en Russie, justement, aux États-Unis, en Israël, en Afrique du Sud, par exemple. Une semaine d'actualité à écouter aussi sur votre moteur de recherche préféré, sur le site de la radio www.rfi.fr, sur l'application RFI 100% Radio et à la page Une semaine d'actu de Facebook. Bonjour Olivier Roger.
Bonjour Pierre-Édouard.
Je suis vraiment heureux de vous avoir à ce micro. Je l'ai dit, on se connaît depuis longtemps, on peut le dire à nos auditeurs. Vous êtes journaliste au service économique en ce moment, vous connaissez aussi très bien l'Afrique, vous avez été correspondant en Afrique, vous avez mené vous continuez à mener une carrière brillante à RFI, et c'est donc l'écrivain que j'invite avec ce deuxième roman. Après l'Afrique, la Russie, donc.
Oui, tout à fait. Après l'Afrique, la Russie, parce que j'ai eu la chance de débuter ma carrière de journaliste en 1990 à Moscou, où j'ai travaillé environ un mois, en décembre 90. J'y suis ensuite retourné en 91, puis je m'y suis installé en 92 pendant à peu près 6 ans. Et bien évidemment, j'ai gardé des souvenirs extrêmement forts de cette période très bouleversé entre la chute de l'Union soviétique et la renaissance de la Russie, la construction d'un nouveau système, d'un nouveau modèle et quelque part d'un nouveau pays. J'en ai gardé des souvenirs très forts et j'ai voulu, 30 ans après, en tirer un roman pour réexpliquer tout ça à ma façon.
Alors, L'ivresse du sergent Dida, qui était votre premier roman, on en avait parlé d'ailleurs ici même il y a 2 ans dans cette émission, parlait de l'itinéraire d'un jeune militaire africain qui ressemble un peu à Thomas Sankara, dont on va parler d'ailleurs tout à l'heure. Et là, il s'agit d'une galerie, d'une fresque avec beaucoup, beaucoup de personnages.
Une fresque de personnages et en même temps, j'interroge quelque part la même chose que dans L'ivresse du sergent Dida, en ce sens que je m'intéresse à ces moments de rupture dans l'histoire collective d'un pays, d'une nation, parce que ce sont des moments toujours très intéressants quand le pouvoir tombe, quand un caporal ou un capitaine prend le pouvoir, quand une crise se produit, ou quand dans Les Hommes Incertains, l'Union soviétique s'effondre. Il y a un moment de rupture qui est intéressant parce que les comportements humains changent, c'est des moments révélateurs aussi, où les tensions sociales peuvent exploser, où les individus sont profondément bouleversés, où les gens doutent, et si les hommes sont incertains dans ce roman, c'est parce que leurs certitudes sont tombées en même temps que l'Union soviétique, en même temps que le rideau de fer.
Alors Olivier, la Russie va être évidemment au cœur de notre émission, celle d'hier et celle d'aujourd'hui. Celle d'hier, c'est l'URSS de 1991, dont on vient de parler, nous allons reparler, qui est le décor de votre roman, dans lequel se meuvent plein de personnages très attachants, on va en relever quelques-uns tout à l'heure, et celle d'aujourd'hui aussi, dont nous allons parler sans tarder d'ailleurs, puisque le parti au pouvoir a subi de lourdes pertes dimanche aux élections du Parlement de Moscou, un scrutin suivi de près après un été de manifestations très sévèrement réprimées par la police à Moscou. Daniel Valo.
Le maire de Moscou, Sergueï Sobyanin, va conserver sa majorité au Parlement de la ville. Mais le verdict des urnes est très sévère pour les autorités. Sur les 40 sièges détenus jusqu'à présent par Russie Unie, seuls 25 ont pu être conservés par les candidats présentés par les autorités. Véritable camouflet pour le parti au pouvoir, son dirigeant moscovite, Andrei Mietelski, a perdu son siège, un siège qu'il détenait depuis le début des années 2000. Au sein de l'opposition, seul le parti Yabloko avait pu présenter 3 candidats tous ont été élus. Pour Alexeï Navalny, ce résultat est la preuve que son appel à un vote intelligent a fonctionné. Après l'exclusion de ses candidats privés de scrutin, le chef de file de l'opposition avait demandé à ses partisans de voter pour le candidat le mieux placé face à celui du pouvoir, et cela, quelle que soit son affiliation. Une stratégie qui a sans doute contribué à ce désaveu électoral pour les autorités, mais qui a bénéficié également au Parti communiste. La formation remporte ainsi 13 sièges au sein de la Douma municipale.
Alors, il faut préciser, Olivier, qu'il y a eu en tout plus de 5000 scrutins locaux dans tout le pays et que la police russe a procédé jeudi à des dizaines de perquisitions à travers le pays contre des collaborateurs de l'opposant au Kremlin dont parlait Daniel Valo, Alexeï Navalny. Le Parti communiste est encore là.
Oui, le Parti communiste est encore là. Et ce qu'il faut noter et qui est très intéressant dans cette histoire, c'est on a souvent le sentiment que Vladimir Poutine est extrêmement puissant, qu'il est assis sur un électorat acquis, consolidé, parfois manipulé. On a l'impression que ce système politique très dur, qui n'est pas du tout démocratique dans son essence et dans son fondement, est inamovible. Et là, on s'aperçoit qu'il y a finalement des alternatives, qu'il y a un contre-discours, qu'il y a des gens qui veulent autre chose, qui pensent différemment. C'est peut-être pas encore généralisé, parce que malgré tout, Vladimir Poutine tient encore très très bien les rênes de son pays, si on peut parler de très très bien en l'occurrence. Mais on s'aperçoit que cet homme qui paraissait si sûr il y a encore 6 mois de son autorité sur le pays, l'est peut-être moins que ce qu'on estime parfois en Occident. Il existe une contestation, et cette contestation cherche tous les interstices possibles pour pouvoir s'exprimer.
Mais on sent que cette contestation est réelle et monte en fait. On sent monter, on sent sourde une colère qui va se manifester peut-être un jour plus brutalement.
Ce qui est effectivement très intéressant, c'est que les Russes finalement sont connectés au reste du monde. Ils voyagent, ils circulent, ils regardent des télévisions étrangères, ils lisent parfois des journaux étrangers. Et la machine de propagande que met en place Poutine depuis une dizaine d'années, qui est dirigée contre les Occidentaux, qui passe son temps à dénigrer l'Europe, à dénigrer les États-Unis, finalement, ça a fonctionné dans une certaine mesure. Mais quelque part, les Russes retrouvent à peu près les mêmes revendications que l'on a dans tous les régimes autoritaires et s'aperçoivent que chez eux, ben non, ce n'est pas du tout ce qu'on raconte. Alors bien évidemment, dans ces votes contestataires, les conditions économiques, les conditions de vie des Russes sont sans doute primordiales, mais on peut y voir aussi l'espoir qu'une partie de l'opinion est consciente qu'un autre modèle de développement politique peut exister pour leur pays. Alors, et ça fait plaisir.
Curieuse époque, celle que vous décrivez dans ce roman, Les Hommes Incertains, Olivier Roger, que celle qui commence en novembre 1989 avec la chute du mur de Berlin et ses conséquences pour l'ensemble du bloc de l'Est, et ce mois d'août 1991. On sent vraiment ce que vous décrivez d'ailleurs formidablement bien dans le livre, une mutation complète.
Il y a une mutation politique et il y a une mutation des individus, c'est-à-dire que ces années, ces dernières années d'existence de l'Union soviétique étaient marquées par le formidable espoir que portaient les Russes de voir leur système dictatorial s'effondrait et donc l'espoir d'aller vers un avenir meilleur. Et d'un autre côté, en même temps, il y avait une terrible angoisse, une angoisse existentielle. Quand le monde s'effondre autour de vous, quand les murs se défont, eh bien, ça génère une grande inquiétude et les certitudes que l'on avait s'effondrent avec la politique, avec cet ensemble politique. Donc les gens vivaient dans une espèce d'exaltation angoissée, en même temps heureux des lendemains qui allaient probablement être plus brillant que leur passé et en même temps très inquiet. Et les années suivantes, les années 92-93, qui ont entraîné une crise économique très profonde, ont confirmé l'angoisse que certains ressentaient déjà en 89-90.
Et parmi vos personnages, qui sont très nombreux, tous très attachants, Olivier, il y a ce colonel du KGB, Youri, qui symbolise à lui tout seul cette mutation.
Ce qui est surprenant, c'est que vous dites attachant, parce que j'ai pas voulu rendre ce personnage très attachant, parce que...
Ah, mais moi, je le trouve attachant.
Un colonel, mais vous n'êtes
oui,
pas le seul.
A priori, un colonel du KGB voilà. Ne semble guère attachant, mais lui...
Un colonel du KGB ne semble guère attachant, mais au KGB, comme dans beaucoup de structures d'État à l'époque, il y avait beaucoup d'analystes, beaucoup de gens qui étaient chargés de surveiller le débat politique, de surveiller... On ne faisait pas que fliquer les gens à l'époque au KGB, on analysait aussi la société en temps réel. Mon personnage vient de ces cercles-là, et effectivement, il est chargé de suivre la lutte politique entre Boris Yeltsin et Mikhail Gorbatchev. On ne sait pas très bien, et le flou est est laissé exprès, est entretenu. On ne sait pas très bien pour qui il roule au final. Est-ce qu'il roule pour le secrétaire général Mikhail Gorbatchev ou pour l'opposant Boris Yeltsin? Il est lui-même incertain, il est entre deux mondes. En tout cas, ce personnage, j'ai voulu le rendre attachant dans ce sens où j'ai voulu le rendre humain. Et c'est l'un de ceux qui va exprimer finalement le plus d'inquiétude, le plus de doutes par rapport à ce qui se produit. Bien évidemment, il appartient à une classe, celle qui est la classe dominante, la classe du KGB. Donc, il voit un peu avec inquiétude l'effondrement du système politique qu'il a finalement fait naître. Mais j'ai voulu aussi placer chez ce personnage des souvenirs. Et ce qui m'a toujours beaucoup frappé en Russie dans les années 90, c'est que les gens se souvenaient avec beaucoup de nostalgie des années 70, de leur jeunesse en fait. Ils se souvenaient des camps de pionniers, des vacances sur les bords de la mer Noire. Les gens en fait, finalement, avaient cette nostalgie d'un bonheur passé qui a été sali et noirci par la crise économique des années 80 et ce brejnevisme qui était à la fois politiquement très dur.
De stagnation totale.
De stagnation totale où la répression était à son comble par rapport aux années 60-70. Donc, il y avait cette nostalgie et ce personnage est attachant parce qu'il porte en lui aussi 20-25 ans d'histoire ou 30 années d'histoire de l'Union soviétique.
Partons pour Bruxelles maintenant et parlons de l'Europe que n'aime pas Vladimir Poutine, semble-t-il. Avec la composition de la nouvelle équipe exécutive de l'Union européenne, la nouvelle commission autour de sa nouvelle présidente, correspondance de Pierre Bénez.
Pour Ursula von der Leyen, l'équilibre géographique est en particulier assuré par le fait que les 8 vice-présidents de la future commission viennent pour moitié de l'Est et de l'Ouest de l'Europe. Parmi ceux-ci, 3 seront les poids lourds de cette nouvelle commission et donnent les 3 grands axes prioritaires pour ces 5 ans à venir. Le néerlandais Frans Timmermans est chargé de la politique d'ajustement au changement climatique. La danoise Margrethe Vestager reste chargée de la concurrence et prend aussi l'économie du numérique, alors que le letton Valdis Dombrovskis se charge de l'économie et des services financiers. Mais Ursula von der Leyen annonce aussi que sa commission sera géopolitique et sera la gardienne du multilatéralisme à l'heure où, par exemple, les États-Unis sont engagés dans une politique de repli. La France peut par ailleurs se satisfaire de voir l'étendue du portefeuille confié à Sylvie Goulard. Elle hérite du marché intérieur, de la politique industrielle et de l'industrie de la défense et de l'espace. Ces 26 commissaires seront auditionnés du 30 septembre au 8 octobre et ce ne sera pas une formalité car le Parlement a déjà à plusieurs reprises rejeté des nominations.
Alors quels sont les défis que cette nouvelle commission va devoir relever? La réponse de Béatrice Leveillé.
Ursula von der Leyen va diriger une commission plus équilibrée et mieux armée que la précédente, avec un agenda politique ambitieux. Au programme l'écologie, Ursula von der Leyen promet un pacte vert avec la neutralité carbone en 2050, une taxe carbone aux frontières, une réduction des gaz à effet de serre de 50% au minimum dès 2030 et une banque européenne du climat avec des investissements à hauteur de 1 000 milliards d'euros sur les 10 prochaines années. Deuxième priorité, le numérique et l'intelligence artificielle. Il s'agit de poursuivre le combat pour contrôler les géants américains du numérique. Troisième priorité, l'état de droit qui doit s'imposer à l'est du continent dans des pays dirigés par des populistes comme la Pologne ou la Hongrie. Il y a aussi les dossiers urgents comme le Brexit. La Commission devra gérer les relations futures avec le Royaume-Uni, les migrations avec une meilleure répartition des migrants, les tensions commerciales avec les États-Unis et la Chine. Enfin, la nouvelle Commission devra boucler le budget européen pour les 7 prochaines années.
J'ajoute que la nouvelle présidente de la Commission va devoir se justifier au Parlement de Strasbourg sur l'intitulé du portefeuille d'un commissaire, intitulé qui lie la migration à la protection du mode de vie européen. Olivier, les relations entre la Russie d'aujourd'hui et l'Europe d'aujourd'hui sont tendues, pour le moins.
Tendu, effectivement. Et ce qui est paradoxal, si l'on se projette 30 ans en arrière, on s'aperçoit que dans les années 90, à mesure que l'Union soviétique se disloquait, l'Union européenne se construisait. En 92, on a voté en France, il y a eu un référendum approuvé par une immense majorité des Français pour poursuivre la construction européenne. Aujourd'hui, nous sommes dans un ensemble politique qui doute de lui, alors qu'on a le sentiment que la Russie a un petit peu remis les compteurs à zéro, commence à reconstruire sa puissance, connaissances, notamment diplomatiques, et se sent beaucoup plus sûre d'elle-même qu'il y a 30 ans. Alors, c'est aussi l'une des résonances que je voulais donner à ce livre, c'est de montrer aux Européens et aux Français à quel point l'histoire nous enseigne que nous devons d'une part être sûrs de nos valeurs et d'autre part que l'on se remet de tous les chocs. On se remettra du choc du Brexit si jamais il a lieu, comme les Russes et les pays baltes, les Biélorusses, les Ukrainiens se sont remis de la dislocation de l'Union soviétique. Donc quelque part, sic transit gloria mundi, la gloire des nations passe comme ça, et en même temps les peuples perdurent, les peuples continuent, et ce message, je voulais vraiment le rappeler quelque part au lecteur. Ne craignez pas l'avenir, mais surtout ne doutons pas de nos valeurs, nous Européens, parce que la pire des choses ce serait de douter, et c'est comme ça que l'on s'affaiblirait.
Alors il y a un autre personnage de votre roman, Les Hommes Incertains, Olivier Roger, qui est important, c'est Anton. Anton est le fils du frère de Yuri, Dimitri, et qui lui traverse le livre et lui donne une dimension quasiment métaphysique.
En fait, ce roman est construit autour de ces deux personnages, l'oncle et le neveu, Yuri et Anton. Yuri qui symbolise d'une certaine façon l'Union soviétique finissante, et Anton qui lui représente la Russie renaissante, émergente. Et c'est un jeune garçon de 20 ans qui habite en Sibérie.
Tomsk numéro 7.
Voilà, Tomsk.
Elle a existé, cette ville ?
Oui, elle a existé. Ah, oui. C'était un centre de recherche qui était à côté de la ville de Tomsk, un centre de recherche en énergie nucléaire. Bien évidemment, c'est une ville qui n'existait pas, une cité qui n'existait pas sur les cartes, puisque les soviétiques prenaient soin de cacher les endroits stratégiques sur les cartes. Et Anton va donc vouloir revenir à Moscou, ce qui n'était pas évident à l'époque. Il valait mieux avoir quelqu'un de haut placé pour pouvoir obtenir la propiska, le papier qui permettait d'habiter à Moscou et permettait de se déplacer aussi jusqu'à Moscou. Et Anton symbolise cette Russie naissante dans le roman. Il va en fait être initié à la capitale par son oncle, qui va lui faire rencontrer plusieurs personnages, et au fur et à mesure que le roman progresse, Anton va se révéler, il va se réaliser. Il y a un petit, c'est un roman d'initiation pour ça, et il va grandir, alors que son oncle, lui, va continuer à douter de ses choix, de sa vie, de son pays, de cette classe politique qui s'affronte. Anton, lui, devient petit à petit le porte-parole d'une jeunesse, et cette jeunesse qui va porter sur ses épaules la révolution de 1991.
Sept jours dans le monde.
Alors, direction les États-Unis cette fois, Olivier. Donald Trump a annoncé mardi le limogeage de John Bolton, son conseiller à la sécurité nationale. Un faucon parmi les faucons avec lequel il était en désaccord sur plusieurs dossiers brûlants, de l'Iran à la Corée du Nord en passant par l'Afghanistan. Incroyable, c'est moi qui devais le modérer, a dit de lui Donald Trump à San Francisco, Eric DeSalve.
Oui, les désaccords entre Donald Trump et John Bolton étaient de plus en plus nets ces dernières semaines. D'abord sur l'attitude à adopter face à l'Iran. Tenant d'une ligne diplomatique dure et interventionniste, Bolton, le va-t-en-guerre, a toujours milité pour un changement de régime en Iran. Il a tenté de convaincre le président de frapper Téhéran, en vain. Au dernier moment, Donald Trump a finalement décidé d'annuler les frappes aériennes prévues contre le régime, et depuis le G7 de Biarritz, il n'exclut pas de rencontrer son numéro 1, Hassan Rouhani. Autre point de friction entre le président et son ex ce conseiller à la sécurité nationale, l'Afghanistan. Selon la presse américaine la semaine dernière, Bolton a usé de toute son influence pour annuler la réunion secrète prévue avec les talibans à camp David. Enfin, sur la Corée du Nord, John Bolton a toujours été contre la politique de la main tendue de Donald Trump envers Kim Jong-un. « Je suis en profond désaccord avec beaucoup de ses suggestions », résume Trump dans un tweet ce mardi, annonçant brutalement que la Maison-Blanche n'a plus besoin de ses services. De son côté, le chef de la diplomatie américaine ne pleure pas son départ. J'avais des vues différentes de lui sur la façon de procéder, commente Mike Pompeo, et dont le camp républicain, certains sont même rassurés de voir Bolton et sa célèbre moustache partir. Avec Bolton hors de la Maison Blanche, dit le sénateur Rand Paul, c'est la menace de guerre dans le monde qui diminue de façon exponentielle.
En Israël, la campagne électorale bat son plein avant les élections législatives de la semaine prochaine, le 17 septembre exactement. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a promis mardi d'annexer la vallée du Jourdain, région stratégique de la Cisjordanie occupée. Une proposition choc, c'est le moins qu'on puisse dire. À Jérusalem, Guilhem Deltaï.
Chaque jour, Benjamin Netanyahou veut dominer le débat public, s'inviter dans les journaux télévisés et en une des journaux. Après sa tentative de doter de caméras les observateurs du Likoud dans des bureaux de vote de localités arabes, après avoir révélé l'existence d'un nouveau site de production nucléaire de l'Iran, il annonce désormais un projet d'annexion d'une partie des territoires palestiniens.
Aujourd'hui, j'annonce mon intention d'imposer dès la mise sur pied du prochain gouvernement la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain et sur le nord de la mer Morte.
La vallée du Jourdain est une zone stratégique sur laquelle il existe un consensus large dans la classe politique israélienne. En cas d'accord de paix avec les Palestiniens, elle doit rester sous contrôle israélien. Benjamin Netanyahou juge que les conditions sont désormais réunies pour l'annexion et il promet d'en faire l'une des premières mesures du prochain gouvernement s'il est réélu. À plusieurs reprises au cours de cette allocution, Benjamin Netanyahou a demandé aux Israéliens de lui confier un mandat clair. Alors que l'issue de ce scrutin est très incertaine, il cherche à mobiliser derrière son nom l'électorat de droite. En avril dernier, à la fin de la dernière campagne, il avait déjà promis une annexion de pans entiers de la Cisjordanie, une stratégie pour éviter l'éparpillement des voix de droite.
Vous écoutez RFI et singulièrement une semaine d'actualité. Nous sommes ce matin en compagnie d'Olivier Roger qui vient d'écrire Les Hommes Incertains, un roman que je vous recommande, publié aux éditions Le Passage. On parlait à l'instant des États-Unis. On ne peut pas dire finalement que les relations entre la Russie et les États-Unis se soient améliorées depuis l'URSS. On est même très inquiet de la suite, c'est-à-dire de la fin des accords sur le nucléaire qui vont permettre à la Russie et aux États-Unis à nouveau de développer cet armement.
Ce qui m'a toujours surpris en Russie, il y a 30 ans, et je pense que c'est la même chose aujourd'hui, c'est la fascination que l'Amérique exerce sur les Russes. Ils sont complètement obsédés par Washington. Durant l'Union soviétique, on copiait, c'est-à-dire qu'on copiait le mode de vie américain, on essayait de le reproduire à l'échelle soviétique, quitte à avoir des stars du show business qui singeaient les stars américaines. Aujourd'hui encore, l'obsession de Vladimir Poutine, c'est de faire de son pays une puissance forte, capable de dialoguer d'égal à égal avec Washington. La première destination où se sont rués les oligarques russes dans les années 90, outre la Riviera française, la Côte d'Azur, c'était bien évidemment Londres et les États-Unis. Il y a une véritable fascination et en même temps une haine intense. C'est une fascination-répulsion d'une certaine façon. C'est une véritable compétition que les Soviétiques et les Russes mènent avec les États-Unis, sachant et ils savent pertinemment qu'aujourd'hui, ils ne sont pas du côté le plus fort et le plus favorable du manche pour eux. Donc ils essaient de rattraper leur retard et ils essaient de donner l'illusion de la puissance face aux États-Unis.
Alors dans cette histoire qui est assez romantique, Les Hommes Incertains, Olivier Roger, il y a évidemment, et c'est extrêmement important, des personnages féminins très très variés. Alors il y a Elena, par exemple, qui est une jeune peintre assez contestataire de l'époque de l'URSS, mais que l'on sent glisser petit à petit vers ce nouveau monde de l'argent, parce qu'elle rencontre un futur oligarque qui s'appelle Alexei.
Voilà, c'est encore un personnage dont les valeurs vont être bouleversées par l'époque, c'est-à-dire que elle était contestataire, elle était atypique, elle était un tout petit peu anarchiste et en même temps très bohème. Et l'irruption de l'argent dans la société russe et soviétique va bouleverser les gens. Et Elena fait partie de ces gens qui vont abandonner finalement leurs amis, leurs principes et leur vie pour gagner de l'argent.
Et leur amour d'ailleurs, parce qu'elle est amoureuse de Yuri, mais bon, on va pas.
Voilà, et leur amour. Quelque part, on abandonne tout, c'est-à-dire que l'argent va détruire une partie des relations sociales qui existaient entre les gens. Et ce personnage d'Elena est là pour rappeler cette période très difficile pour ceux qui rêvaient d'un autre monde et qui espéraient pouvoir continuer à aimer en toute tranquillité.
Et il y a aussi la belle Tcherkesse Aliona qui, elle, ne change pas. Cette cartomancienne, cette je sais pas, la prêtresse un petit peu.
Alors c'est un personnage, on va dire, c'est un personnage un peu miroir d'Anton. C'est pas forcément le personnage féminin le plus fort du roman, parce qu'elle sert finalement à mettre en valeur Anton dans ce roman, et c'est un choix que j'assume. Effectivement, elle a cet aspect très intéressant que j'ai mis dans ce roman. Elle symbolise l'imaginaire fantastique et fantasmagorique des Russes, c'est-à-dire cette capacité à se projeter dans la voyance, dans l'extralucidité, dans les mondes magiques, dans la pensée magique. Et c'est très important, cette pensée magique, magique dans l'imaginaire des Russes parce que ça vient de loin, ça vient du Moyen Âge, ça s'est poursuivi durant l'Union soviétique et ça continue aujourd'hui. Et Aliona symbolise un petit peu tout ça parce qu'elle va permettre à Anton justement de libérer en lui cette pensée imaginative, cette pensée magique qui va lui permettre de se construire.
Une semaine d'actualité.
Et arrêtons-nous maintenant un instant en France. Olivier, avec des mesures gouvernementales censées mettre fin au profond malaise que connaissent les services d'urgence médicale en France, Marie Casadebé.
Ce sont plutôt des pistes que la ministre a lancées ce lundi. La première pour désengorger les urgences quand 43% des patients n'ont rien à y faire mais s'y présentent faute d'accès rapide à un médecin généraliste. Agnès Buzyn propose d'ici l'été 2020 un service de conseil disponible 24 heures sur 24 pour orienter le patient vers le professionnel le plus adapté. Peu de détails, libéraux et hospitaliers ont 2 mois pour écrire le cahier des charges. Deuxième piste, offrir au secteur libéral les mêmes avantages que les urgences, pas d'avance de frais ou encore l'accès gratuit à une ambulance pour aller chez son médecin. Dernier volet, il concerne les personnes âgées. L'objectif, c'est d'atteindre le zéro passage par les urgences d'ici 5 ans, que ces patients puissent être tout de suite dirigés vers les services de soins adéquats. Mais la ministre n'est pas parvenue à convaincre les organisations professionnelles. Oriane Plumet est la vice-présidente du collectif Interurgence à l'origine du mouvement.
Nous, ce qu'on note dans tous les cas, c'est aucune avancée dans le cadre de nos revendications qu'on porte depuis le début du mouvement. Rien en termes de revalorisation salariale, rien en termes d'augmentation d'effectifs paramédicaux dans les services et juste quelques timides annonces sur peut-être des réouvertures de lits d'aval.
Le collectif doit se retrouver en AG ce mardi. Il pourrait bien voter la poursuite de la grève.
Et les grèves, effectivement, continuent. Repartons en Russie, Olivier Roger, pour parler cette fois du réchauffement des relations entre Paris et Moscou. Les ministres français des Affaires étrangères et de la Défense aussi ont rencontré lundi leurs homologues, Daniel Valo.
D'un côté de la table, Jean-Yves Le Drian, le chef de la diplomatie française, et Florence Parly, la ministre de la Défense. Et de l'autre, Sergueï Lavrov et Sergueï Shoigu, leurs homologues russes. Une telle rencontre n'avait pas eu lieu depuis 2012. Une relance du dialogue entre les deux pays saluée par Sergueï Lavrov.
Nous avons écouté attentivement la position française et en particulier l'idée du président Macron d'une architecture de sécurité européenne. Une architecture avec la Russie et non pas sans la Russie ou contre la Russie. Et pour notre part, nous avons exprimé notre entière disposition à travailler en commun.
La Russie ne peut que se réjouir de voir la France lui tendre la main et pour cause, pour la première fois depuis l'annexion de la Crimée en 2014, un grand pays européen choisit de jouer la carte de la détente avec Moscou. Mais la France espère justement que ce changement de cap permettra de faire bouger les lignes dans le dossier ukrainien.
Nous estimons que le contexte y est aujourd'hui favorable, peut-être plus qu'il ne l'a jamais été en 3 ans. Nous avons constaté ces dernières semaines des avancées significatives. Il est crucial que les parties continuent de mettre à profit ce contexte favorable.
Et l'espoir de la France, c'est de parvenir à ressusciter les accords de Minsk, objectif de la diplomatie française, organiser à Paris dans les prochaines semaines un sommet à 4 avec l'Allemagne, la Russie et l'Ukraine.
J'ajoute dans l'actualité française que le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, a été mis en examen dans la nuit de mercredi à jeudi à Lille, dans le nord de la France, pour prise illégale d'intérêt dans une affaire de favoritisme envers une société de mutuelle qu'il dirigeait. Revenons à la Russie, donc Olivier, et aux relations avec la France qui se réchauffe un peu, semble-t-il.
Alors, elle se réchauffe pas seulement avec la France. D'une certaine façon, elle se réchauffe avec l'Europe occidentale. La Russie joue gros dans cette histoire. Elle joue la fin de son isolement consécutif à l'annexion de la Crimée. Voilà pourquoi Poutine accepte de faire, même du bout des lèvres, des courbettes à Emmanuel Macron, parce que les enjeux sont importants. Certes, dans un monde idéal pour Vladimir Poutine, il faudrait arriver à la levée des sanctions internationales décidées suite à l'annexion de la Crimée. On n'en est pas encore là, mais toujours est-il que cette idylle avec Emmanuel Macron lui permet d'avancer, de faire oublier les choses. Donc il joue gros, il joue une partie de l'avenir économique de son pays. Ça va prendre du temps, sans doute, pour lui. Quant à Emmanuel Macron, on voit évidemment ce que lui joue. Il joue sa partie personnelle, c'est-à-dire qu'avec une Angela Merkel finissante, avec une Angleterre qui a un pied dedans, un pied dehors et qui est occupée par son Brexit, le leader naturel en Europe aujourd'hui, c'est bien évidemment lui. Donc, il profite de ce dialogue renouvelé avec Moscou pour peaufiner sa stature d'homme d'État européen.
Écrire par courriel semaine.actu@rfi.fr.
Notre adresse électronique, donc, merci pour vos messages. Continuez évidemment à nous écrire, cela nous fait plaisir. Je salue aujourd'hui Mariam qui nous écoute à Bamako, Issouf à Koudougou au Burkina Faso, Alpha Idi à Conakry. Bonjour également à Boubacar Diallo à Conakry également. Un salut à Serge, à Bobo Dioulasso. La situation ne fait qu'empirer dans notre pays, dit-il. Un salut à Awal, à Maroua, qui me demande de vous saluer. Olivier Roger, c'est fait.
Merci.
Il vous salue, Awal. Et un salut également à Jean-Claude Agoma.
Une semaine d'actualité.
Et l'Afrique, maintenant un continent que vous aimez, Olivier Roger. Cette semaine ont commencé les rapatriements de Nigérians installés en Afrique du Sud après les manifestations xénophobes dont nous vous parlions la semaine dernière. 6000 candidats sur les 100 000 que compte l'Afrique du Sud, Clémentine Palotsky.
Lorsqu'elle a appris qu'elle avait la possibilité de quitter l'Afrique du Sud, cette Nigériane, mère de deux enfants, n'a pas hésité une seconde.
Les personnes qui organisent ces retours volontaires font preuve de sympathie, d'attention envers l'être humain. Nous devons saisir cette opportunité.
Après 4 ans passés à Durban, dans l'est du pays, la mère de famille se dit fatiguée et traumatisée. Ce n'est pas la première fois qu'elle assiste à un déferlement de violence contre les immigrés.
Mon mari avait un commerce. Notre boutique a été attaquée entièrement brûlé en 2015. On a dû trouver un refuge avec mes deux enfants. Il fallait tout reconstruire. C'était un grand traumatisme. On a réussi à survivre et puis ça a recommencé cette année. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de partir.
Même son de cloche chez cet autre Nigérian de Durban, lui aussi candidat au départ.
Ma femme a été attaquée en 2015. Par la grâce de Dieu, elle a été sauvée. Mais maintenant, ça recommence. Je ne peux pas laisser mes enfants et ma femme dans une situation aussi risquée.
Face à l'inquiétude de ses ressortissants, le Nigeria a envoyé il y a quelques jours un émissaire spécial pour rencontrer le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Le chef de l'État nigérian Muhammadu Buhari a également annulé sa visite au Forum économique mondial pour l'Afrique, organisé dans la ville du Cap.
Alors partons pour le Cameroun maintenant, Olivier Roger, avec une surprise, l'annonce par Paul Biya, le président, d'un dialogue national sur la crise anglophone qui déchire, on le sait, le pays depuis près de 3 ans à Yaoundé, Polycarpe et Samba.
Un discours de 30 minutes tout entier consacré à la crise anglophone et principalement à cette annonce forte.
J'ai décidé de convoquer dès la fin du mois en cours un grand dialogue national qui nous permettra, dans le cadre de notre constitution, d'examiner les voies et moyens de répondre aux aspirations profondes des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.
Si l'idée n'est pas nouvelle en soi, tant elle a été suggérée depuis de longs mois par divers acteurs, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, Paul Biya s'est insurgé contre l'analyse que certains ont fait de la nature même du conflit.
La prolifération de ces initiatives s'est parfois malheureusement appuyée sur des idées simplistes et fausses procédant de la propagande sécessionniste. Il en est ainsi de la prétendue marginalisation des anglophones, de la persécution de la minorité anglophone par la majorité francophone, du refus du dialogue par notre gouvernement au bénéfice d'une solution militaire à la crise, ou encore des accusations ridicules de génocide. S'agissant du dialogue lui-même, la question s'est toujours posée de savoir avec qui.
Désormais, la question des interlocuteurs ne se pose plus et le dialogue aura bel et bien lieu, avec la conviction pour le président camerounais que
l'avenir de nos compatriotes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest se trouve au sein de notre République. Le Cameroun restera un et indivisible.
Rendez-vous à la table des discussions dès fin septembre.
Avant de vous retrouver, Olivier Roger, direction Kinshasa maintenant. Depuis plusieurs semaines, l'affaire dite des 15 millions de dollars disparus du compte du Trésor défraie la chronique dans le pays. D'autant que le directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe, figure parmi les personnalités que l'inspection des finances tient pour responsable de cette affaire. Lui nie toute responsabilité dans cette affaire précisément. En tout cas, ce que les observateurs remarquent, ce sont les luttes d'influence au sein de la présidence de la capitale congolaise, les explications de Florence Maurice.
Si le chef de l'État reste muet sur toutes ces affaires, on ne peut pas en dire autant de son entourage. Les polémiques à répétition que suscitent les enquêtes de l'Inspection générale des finances révèlent de sérieuses lignes de fracture au sein de la présidence. Il y a d'abord ce conflit qui oppose Vital Kamerhe, le directeur de cabinet Félix Tshisekedi, à Marcelin Bilomba, conseiller principal du chef de l'État pour les affaires économiques. C'est ce dernier qui a initié et supervisé le rapport de l'IGF qui éclabousse Vital Kamerhe. En retour, l'entourage du directeur de cabinet accuse le conseiller d'avoir outrepassé ses fonctions et, je cite, manipuler l'inspection générale des finances dans le but de lui nuire. Quoi qu'il en soit, entre les deux, la guerre est déclarée. Mais ce n'est pas tout. La seconde enquête qu'a tenté de mener l'IGF sur les dépenses ministérielles a engendré, elle aussi, une série de bras de fer au plus haut sommet de l'État. C'est l'ANR, l'Agence nationale de renseignement, qui a initié cette enquête. C'est Vital Kamerhe, le directeur de cabinet de Félix Tshisekedi, qui a demandé sa suspension, tandis que François Béya, conseiller principal du chef de l'État pour les affaires sécuritaires et ses proches, sont accusés par les inspecteurs de l'IGF de les harceler sur le dossier, ce qu'il nie. Une cacophonie sur fond de lutte d'influence que publiquement, en tout cas, Félix Tshisekedi a jusqu'à présent refusé de trancher.
Suite à d'une semaine d'actualité avec vous, Olivier Roger, bonjour à votre invité charismatique. Olivier Roger dit Omar qui nous écoute à Kakandé.
C'est moi l'invité charismatique.
Je le crains, oui.
Merci Omar.
Vigne minière de Guinée-Conakry. Et il s'inquiète, lui, du silence de l'Union africaine et des chefs d'État africains face à ces violences en Afrique du Sud. Tout comme Hippolyte, qui lui nous écoute au Bénin, qui lui s'inquiète non seulement de la situation d'Afrique du Sud, mais s'inquiète aussi pour le président Tshisekedi et il se demande si déjà si le président finira son mandat. Alors vous vouliez parler du Cameroun, la situation, ce qu'on a entendu là, Paul Biya.
Oui, juste peut-être pour dire un mot. C'est bien que Paul Biya propose un dialogue national, mais est-ce que ça n'arrive pas trop tard? Alors il n'est jamais trop tard pour discuter, on est bien d'accord, mais n'est-ce pas un geste qu'il aurait dû faire plus tôt et n'aurait-ce pas été une façon d'économiser des dizaines et des dizaines de vies qui ont été perdues depuis pour cela? C'est un peu la question qu'on peut se poser. On a l'impression que ce régime a du mal à réagir, a du mal à prendre conscience des enjeux, même s'il... On a l'impression qu'il est observateur. Il regarde le pays s'effondrer petit à petit et puis finalement, il y a une espèce de sursaut. On propose un dialogue national. Reste à savoir si, effectivement, il ne faut pas commencer par sortir un certain nombre de personnes de prison pour pouvoir conduire ce dialogue national en bonne entente, finalement.
La situation à Kinshasa vous inspire un commentaire aussi aujourd'hui, oui, avec le scandale des 15 millions
Oui, peut-être deux petites choses. D'abord, depuis il y a quelques mois, tout le monde attendait, tout le monde se disait « Ah, quand est-ce que cet attelage entre Kabila et Tshisekedi va exploser? Quand est-ce qu'ils vont commencer leur guerre interne autour du pouvoir, etc. etc. ?» Et finalement, on s'aperçoit que c'est au sein du camp Tshisekedi que les choses ont tendance à déraper. Alors pourquoi tout un coup y a-t-il cette sourde lutte entre les pro Tshisekedi et les pro Vital Kamerhe? Eh bien, peut-être la réponse est à trouver dans les fondements même de l'accord qu'ils ont signé, comme nous l'expliquait Florence Maurice ces derniers jours sur nos antennes. On sait très bien qu'au terme de l'accord de Nairobi, le soutien de Vital Kamerhe était conditionné conditionné au fait qu'en 2023, Tshisekedi le soutiendrait pour la présidentielle. Et c'est peut-être d'ores et déjà cette présidentielle de 2023 qui est en train de se jouer. Et ce qui est terrible, ce qui est toujours surprenant avec les hommes politiques, c'est qu'ils ne s'arrêtent jamais. C'est-à-dire que on a le sentiment qu'ils devraient s'occuper à des tâches très importantes, reconstruire le pays, relever le pays. Et bien, ils continuent à faire de la politique politicienne et à préparer les prochaines élections. C'est toujours quelque chose de surprenant.
Dans ce roman, Les Hommes Incertains, et là on repart à Moscou, en Russie, la Russie et l'URSS des derniers mois, il y a la grande politique, la géopolitique, que vous expliquez très bien, parce qu'on y voit même Mikhail Gorbatchev, on voit Boris Yeltsin, on est avec eux dans votre roman. Mais il y a aussi donc toutes ces femmes et ces hommes qui se débattent pour vivre ou survivre dans ce pays. On y croise aussi un jeune étudiant congolais, Boniface.
Oui, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'étudiants africains à Moscou. L'université Patrice Lumumba. Ouais. Et à l'époque, ces étudiants étaient quelque part un petit peu des stars, parce que ils avaient la possibilité de voyager dans tout l'espace européen, d'Europe de l'Est, bien évidemment. Donc, ils allaient en RDA, ils allaient à Berlin. Ils revenaient à Moscou avec des jeans, avec des CD, avec des cassettes, avec tout ce qui faisait vibrer les jeunes soviétiques. Et du coup, ces jeunes Africains qui pouvaient voyager et qui étaient débrouillards étaient un petit peu toujours très bien vus. Ils avaient la belle vie. Et tout ça, effectivement, était un paravent, parce que lorsque l'Union soviétique s'est effondrée, ce racisme anti-africain chez une partie de la population a ressurgi. Et les Africains, dans les années 90-2000, en ont été les grandes victimes.
Sept jours en Afrique.
Et nous allons, Olivier Roger, nous rendre au Mali maintenant, pour revenir cette fois sur la grogne de la population dans le nord du pays, qui en a marre d'avoir des routes totalement délabrées, une colère au sujet donc de ce délabrement du réseau routier en piètre état, qui pose un réel problème quasiment stratégique. Gaël Alex.
Pour rejoindre notre propre capitale, nous devons passer par la Mauritanie ou le Niger. C'est une honte, se désole Amadoune Abdoulaye Diko, le président de la plateforme Ensemble pour Gao. Le Mali s'étend sur plus d'1 200 000 km². Les deux tiers du pays sont désertiques et occupés par seulement 10% de la population. Pour ses habitants, les axes routiers représentent donc leur unique connexion avec le reste du pays. Or, depuis l'indépendance, le réseau routier malien a peu progressé. D'après une étude de la Banque africaine de développement, en 2013, le Mali ne dispose que de 5700 km de routes bitumées. C'est l'une des densités routières les plus faibles d'Afrique et elle diminue encore dans les régions du Nord. Le gouvernement a annoncé en avril vouloir mobiliser 520 milliards de francs CFA cette année dans des projets d'infrastructures, notamment dans le sud, avec la route Yanfolila, frontière de Guinée, ou le bitumage de la route Colondier-Bazantier-Bougou, près de la frontière ivoirienne. D'après Yaya Sangaré, porte-parole du gouvernement, la remise en état des routes du Nord fait aussi partie du programme du président. Mais il demande aux populations de s'armer de patience.
Terminons notre voyage africain avec une page de l'histoire du continent. Et quelle page ? Avec l'assassinat de Thomas Sankara le 15 octobre 1987. Vous l'avez peut-être écouté sur notre antenne, sur RFI, un entretien avec l'ancien président tchadien Goukouni Wedey relance la piste libyenne. Karine Franck.
D'aucuns disent que c'est le vieux Oufouette, d'autres disent que c'est François Mitterrand. Moi, je crois que la Libye n'est pas loin dans cette affaire, affirme l'ancien président Goukouni Wedey dans son interview à RFI. Y a-t-il une main libyenne dans l'assassinat du jeune capitaine ? Impossible de l'affirmer, mais ce qui semble faire consensus, c'est qu'à la suite du refus de Thomas Sankara d'accueillir favorablement la demande de Tripoli d'appuyer le rebelle libyen Charles Taylor, les relations entre les deux chefs d'État se sont fortement dégradées. Interrogé il y a 2 ans, Mousbila Sankara, ancien ambassadeur du Burkina Faso en Libye, a affirmé que Blaise Compaoré avait obtenu du guide libyen, par un canal non officiel, des équipements militaires. Lui aussi assure avoir eu la conviction que quelque chose se tramait à l'époque, et selon l'ancien diplomate burkinabé, il est possible que le guide libyen ait su ce que Blaise Compaoré projetait de faire, mais rien ne permet de l'attester véritablement. Cette version, l'ancien ambassadeur de Libye au Burkina Faso, Mohamed Al-Madani Al-Azari, l'a contestée. Selon lui, une mise à l'écart, voire une élimination de Sankara, n'a jamais été évoquée entre Blaise Compaoré et Muammar Kadhafi, et Kadhafi n'a rien à voir dans l'assassinat de Thomas Sankara.
Un mot de commentaire, Olivier Roger, sur l'assassinat du sergent Dida. Je fais spécialement ce rapprochement parce que le sergent Dida, qui était le héros de votre précédent roman, ressemble furieusement à Thomas Sankara.
Il avait le même idéalisme, effectivement. Je pense que ce qui est très important dans nos pays, quel que soit le pays d'ailleurs, c'est d'avoir des modèles, de construire une nation, de construire une histoire sur des figures, des grandes figures qui permettent à la fois de baliser l'histoire, d'apporter une forme d'entretien des valeurs et d'enseignement de ces valeurs de transmission. Donc les modèles sont importants et les Burkinabés ont la chance d'avoir Thomas Sankara. Après, il faut peut-être aussi savoir faire évoluer ces modèles avec le temps, ce que les nations ont souvent beaucoup de mal à faire. Mais en tout cas, je pense que l'intérêt que suscite toujours Thomas Sankara en Afrique et en Afrique de l'Ouest en particulier prouve à quel point une grande partie de la jeunesse a besoin de références qui soient les siennes, qui ne soient pas empruntées à d'autres continents, qui ne soient pas empruntées à d'autres histoires. Et ces modèles doivent bien évidemment être aux yeux de tous des modèles positifs et des modèles qui permettent d'avancer.
Si possible.
Voilà.
Si possible.
Oui, tout à fait.
Olivier, terminons avec la Russie, avec l'URSS de cette époque, 89-91, que vous avez fort bien décrite dans ce roman, où il y a une large part d'irrationnel. Il y a un personnage très troublant qui est un Starets, on ne sait pas trop si c'est un religieux ou si c'est un industriel de l'armement reconverti dans le psychédélique. Mais les deux. Il y a dans votre roman beaucoup d'irrationnel.
Il y a une grande place
spiritualité.
Voilà, une grande place accordée à la spiritualité. D'abord parce que la spiritualité en Union soviétique était dévoyée. Elle se transformait soit en bigoterie, soit en surnaturel. C'est-à-dire qu'effectivement, on accordait une large place aux clairvoyants, ce qu'on appelait les extrasens et à l'extra-lucidité en général. Et puis, pourtant, cette spiritualité est importante parce qu'elle est vraiment constitutive de l'homme. Donc, elle est constitutive des Russes, puisque les Russes font partie de l'humanité. Et elle permettait dans le roman de tracer un trait entre différentes époques, de revenir en arrière, de traverser la période soviétique et d'annoncer peut-être la Russie renaissante. Et elle permettait aussi, surtout, à certains personnages d'effectuer leur transformation interne dans le livre et leur mue. Pour en revenir à ce personnage du Starets, en quelques mots, lui, c'est une espèce de Janus qui porte en lui une ambivalence fondamentale, qui est l'ambivalence de l'homme d'une certaine façon, et de l'homo sovieticus en particulier, d'un côté hyper rationnel puisqu'il travaille dans le complexe militaro-industriel. Il porte d'ailleurs le poids de la mort de la guerre en lui, puisqu'il fabriquait des armes. Et d'un autre côté, c'est un personnage lumineux, puisqu'il a en lui cette part mystique et cette part spirituelle très forte et très développée. Et bien évidemment, c'est une façon de réconcilier les deux facettes qu'il y a en chacun de nous.
Il y a même un mafieux que vous rendez sympathique, comme le colonel du KGB, enfin qui n'est pas totalement antipathique.
Oui, j'ai une tendresse pour les voyous, hein, d'une certaine façon. Et ce personnage de mafieux est intéressant parce que il permet de dire et de montrer que l'organisation politique de l'Union soviétique et l'organisation d'une mafia ne sont pas fondamentalement différentes. Ce sont des systèmes prébandiers avec une structure de pouvoir verticale qui permet de se répartir les richesses captées sur le plus grand nombre entre un tout petit nombre d'élus. Donc une mafia et un système dictatorial finalement fonctionnent sur les mêmes principes, et ce personnage est là justement pour alimenter cette idée et en miroir montrer à Yuri qu'ils sont du même monde et que finalement, flic ou voyou, parfois les frontières sont légères.
Alors nous avons parcouru cette galerie de portraits. J'ai fait exprès de ne pas raconter l'histoire, qui est une vraie histoire, hein, une histoire d'amour et beaucoup de sentiments, beaucoup d'actions. J'ai une tendresse particulière pour Anastasia, mais les lecteurs sauront peut-être pourquoi s'ils se penchent sur le livre. En tout cas, je vous remercie de nous avoir offert ce livre, Olivier Roger, qui s'intitule Les Hommes Incertains. Il est publié aux éditions Le Passage. On passe un excellent moment et on apprend plein de choses. En plus.
Merci à vous.
Merci Olivier Roger. Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Nous nous retrouvons demain pour un nouveau numéro d'idées cette fois, et nous allons parler de l'Afrique aussi, et plus précisément de la fabrication en quelque sorte des héros africains de l'indépendance, avec notre invitée, la jeune et prometteuse chercheuse spécialiste du continent, Elara Berthaud, à ne pas manquer demain dimanche à 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, nouveau journal sur RFI.